CFM Villefranche, le mag.
Bourville, dans le Transistor, le petit bal perdu pour accueillir Fred Sancerre, directeur de l'association Cap de Naquoise Derrière le Hublot. Fred Sancerre, directeur et l'un des fondateurs de Derrière le Hublot, association laboratoire même labellisée depuis 2020, scène conventionnée d'intérêt national, art en territoire. Fred Sancerre, directeur, fondateur, on peut dire aussi bâtisseur, concepteur, artisan, artiste. Bonjour Fred Sancerre.
Bonjour.
Invité au traditionnel rendez-vous pour accompagner la parution du programme de l'association, programme de ce début de saison, première partie de saison, un programme qui, de coutume, lance, annonce le festival, pas un festival, hein, le festival de Derrière le Hublot, festival des arts de la rue, l'autre festival, point de fuite, une sorte de festival, comme vous l'avez dernièrement appelé. Et je me suis noirci les doigts à retourner le programme dans tous les sens, et le constat est et amer, je dois le dire. Pour la première fois depuis 28 ans, pas de festival, rien de rien. Et forcément, ça pose question. Et c'est un fait suffisamment marquant pour entamer notre échange autour de la présentation du programme, autour de cette absence de festival pour cette année 2024. Fred Sancerre.
Eh ben non, pas de festival cette année.
Eh ben non, c'est confirmé, il manque pas une feuille ou
Non, il manque pas une feuille ou une double ou quatre doubles puisque c'était à peu près la place que ça prenait. Non, le projet s'invente depuis toujours, hein, tu le soulignes, et il continue de s'inventer. Et cette année, en tout cas, il se réinvente une nouvelle fois et sans festival, en tout cas sur cette partie de saison, puisque de toute façon, des temps forts, on en a eu un, on en a eu deux, on en a eu parfois trois par saison. Normalement, il y a un autre temps fort au mois de septembre qui s'appelle Travers, oui, auquel on donnera un peu plus de dimension et de couleur cette année, pour qu'il retrouve et qu'il trouve en tout cas une dimension festive comme a pu l'avoir l'autre festival, Point de Fuite, une sorte de festival. Toutes ces différentes étapes du festival Derrière le Hublot, tel qu'il s'appelait au départ. Mais non, cette année, effectivement, on le fera pas. Après, on redéploie de façon différente. C'est-à-dire que c'est aussi le désir depuis toujours de Derrière le Hublot que ce que j'évoque dans l'édito en parlant de Jean Villard, qui disait qu'il fallait que la culture soit au même titre, la culture et les arts, au même titre que l'eau, le gaz, comme un service public. C'est indispensable, mais qu'il soit présent dans la vie et le quotidien de chacun et chacune. Finalement, nous, ce qu'on déploie au quotidien depuis Cap de Nac, c'est un service des arts et de la culture, une forme de service public des arts et de la culture. Donc, effectivement, ça se redéploie différemment. Parfois, ça passe par des actions qui semblent être invisibles du grand public et qui, pour autant, touchent très profondément les gens avec lesquels on travaille. Donc, c'est aussi ça, de porter un projet artistique et culturel sur un territoire. C'est prendre un peu l'attention du territoire et la façon dont il fonctionne. Je dirais qu'en plus, depuis 28 ans, l'espace, le territoire sur lequel on travaille a aussi bougé. Il y a des nouvelles initiatives qui sont apparues. Le monde artistique a aussi bougé. C'est-à-dire que la famille dans laquelle le festival s'est créé, qui était la famille du théâtre de rue, des arts de la rue, a aussi évolué. D'autres se sont saisis de ces écritures-là. Donc je pense que c'est une phase de réinvention aussi pour nous autres. Hein.
Transition, mutation.
Ouais, c'est ça. Et puis peut-être que l'an prochain, il y aura trois temps forts dans la saison. On a déjà fait un festival d'une journée, et puis on en a fait une en 2016 qui durait trois semaines. Donc, je veux dire, voilà, on n'est pas à l'abri de se réinventer encore dans six mois et dans un an.
Vous en parlez un petit peu au passé. Voilà, c'est ce qu'on était avant, c'est ce qui nous fait dire que vous nous emmenez sur de nouveaux chemins. Une transition, une mutation qui est en train d'opérer l'association avec deux piliers aujourd'hui, hein, qui portent l'association. Vous avez d'ailleurs bénéficié sur ces deux grands projets d'une couverture nationale, Libé, Le Monde, La Croix, fenêtre sur le paysage et service d'art à domicile. Je vous parlais bâtisseur, concepteur. Service d'art à domicile, c'est une idée que l'on vous doit, Fred Sancerre, et qui a émergé justement pendant le Covid. C'était aussi une phase de transition, une nouvelle réflexion, cette phase-là, 2020, 21, 22, et ce qui vous amène aujourd'hui à peut-être réimaginer le chemin que vous souhaitez nous faire emprunter.
Ouais, je crois qu'en tout cas, la césure du Covid, de la Covid et cette période 20, 21, 22 nous amène aujourd'hui effectivement à cette programmation-là et des choses qui bougent. Pour autant, des rendez-vous festifs, il y en aura. Pour autant, on est toujours dans des écritures qui sont des écritures des arts de la rue, de l'espace public, etc. Mais même chez les artistes, les choses ont évolué. Il y a des artistes aujourd'hui dont les spectacles ne se prêtent pas vraiment à la dimension festival et festive de l'événement, etc. Donc, bon, voilà. Et oui, le service d'art à domicile, effectivement, je l'ai imaginé ici, mais c'est pas des idées qui sortent nulle part. Je veux dire, que des artistes rentrent dans les maisons pour y fabriquer quelque chose avec les gens, c'est des idées qui sont peut-être vieilles comme le monde. En tout cas, ici, on a voulu systématiser quelque chose de l'ordre d'un service qui potentiellement, de même, peut être une forme de service permanent qui permette à des artistes de rencontrer, via des auxiliaires de vie et des aides à domicile, des gens qui sont isolés chez eux, qui sont dépendants parce qu'ils ne peuvent pas bouger, sortir, etc. Et du coup, on a inventé ce protocole-là avec des artistes, avec des scientifiques, des chercheurs qui sont spécialisés dans les mondes de la santé pour le systématiser. Et là où aujourd'hui, peut-être derrière l'hublot, a quelque chose à jouer qui me semble être plus important encore que d'imaginer un festival aujourd'hui, c'est de voir de quelle façon les politiques publiques de la culture peuvent prendre en charge aussi des pans entiers avec des publics qui étaient des publics délaissés. En fait, c'est des publics qu'on ne voit pas.
Et public limité aussi, c'est pas du grand public. Hein. On n'assiste pas à la représentation, on va pas chez les gens. Il y a aussi ça de particulier dans ce projet.
Ouais, et ce qui nous touche encore plus, c'est que c'est des gens qu'on ne voit pas.
Oui.
Des projets qu'on ne voit pas forcément. Mais en tout cas, quand on va chez une personne âgée avec un artiste, effectivement, ce qui va se passer pour la personne chez qui nous sommes. Elle est seule ou elle est en couple, elle est parfois accompagnée d'un peu de famille, et pour l'auxiliaire de vie qui est là. Et en fait, ces deux typologies de public-là, ces personnes qui étaient isolées chez elles, et les auxiliaires de vie, c'est des gens qu'on ne voit pas, qu'on ne voyait pas, nous, dans les représentations, qu'on ne voyait pas pendant le festival, qu'on ne voit pas. On a beau circuler dans plein de villages, c'est des gens qu'on ne voyait pas. Moi, aujourd'hui, il m'importe que ces gens qu'on ne voyait pas puissent avoir accès aussi à des œuvres contemporaines, à des artistes, à des langages symboliques. Moi, c'est ça qui m'importe. Ça m'importe encore plus de travailler avec ces gens-là, finalement, que de travailler avec des gens qui ont déjà toutes ces habitudes de se déplacer et d'aller de festival en festival. Okay. C'est aussi ça. Et du coup, c'est aussi pour ça que quand on doit faire des choix entre continuer le service d'art à domicile ou rogner celui-ci pour refaire un festival, ou rogner sur des actions qui sont plus longues, qui s'inscrivent dans la durée, etc. Voilà, c'est des questions qu'on se pose, nous. Hein, à quel endroit est-ce qu'on met notre temps de travail, les moyens financiers que nous avons, notre investissement, voilà.
On l'entend, c'est de l'alchimie, service d'art à domicile, un super reportage, je crois que c'est France Culture hein, qui l'a signé, et c'est vrai que l'outil audio se prête parfaitement et ouvre un nouveau public aussi, ces rencontres et ces échanges.
C'est le meilleur, c'est la meilleure façon de voir de quoi il s'agit.
Ouais.
Y a eu plusieurs sujets radio, France Inter et France Culture qui se sont intéressés à ce service d'art à domicile. Et effectivement, par des petites capsules de quelques minutes, voire une dizaine de minutes, on arrive très bien à voir de quoi il s'agit et comprendre l'émotion qu'il y a dans chacun de ces rendez-vous. Puisqu'en fait, c'est des rendez-vous qui doivent rester, non pas secrets, mais en tout cas intimes, puisque c'est des rendez-vous qui parlent aussi de la personne chez qui nous sommes, puisque l'artiste travaille à partir de cette personne-là.
Fred Sancerre, directeur de l'association Derrière l'Hublot, l'un des fondateurs. Je vous présentais aussi comme un concepteur bâtisseur. Vous êtes de plus en plus impliqué aussi sur le plan artistique dans le programme depuis 3, 4, 5 ans. C'est concernant le Lycitern, on va parler de fenêtres sur le paysage. Vous allez intervenir à l'occasion d'une conférence récit à Rodez le 18 juin dans le cadre d'une exposition fenêtres sur le paysage qui se tiendra jusqu'au mois de septembre, je crois. J'ai perdu la date. Vous avez une exposition personnelle, l'air de rien, j'aimais bien moi l'idée de ricochet, mais l'air de rien, enfin, il y a quelque chose qui est rentré dans votre vie, vous êtes plus exposé, plus... Alors peut-être que je suis passé totalement à côté d'eux, mais j'ai l'impression qu'il y a une volonté de vous impliquer un petit peu plus et d'être au cœur du projet artistique aussi, et de faire vibrer cette corde artistique qui vous anime.
Oui, sûrement, même si ça a peut-être toujours été là et de façon tue, en tout cas, c'est quelques belles personnes autour de moi, que ce soit dans l'équipe des permanents ou autour de moi, d'autres artistes qui m'ont accompagné là-dedans pour finalement fabriquer des choses aussi. Mais c'est arrivé comme un accident, hein. C'est-à-dire, c'était pas prémédité, c'est arrivé comme Oui, accidentellement, de se dire, bah tiens, et si c'est moi qui ai développé l'idée de la citerne-lit, et quand il s'agissait d'essayer de la mettre en jeu et de la fabriquer, bah, les gens autour de moi m'ont dit, mais écoute, c'est toi qui as eu l'idée, fabrique-la. N'allons pas chercher ailleurs. Voilà, donc effectivement, je me suis fait accompagner, aider pour ça. Et à côté, effectivement, je me retrouve à faire une expo, un livre prochainement. Enfin voilà. Et puis peut-être que au bout de bientôt 30 ans de métier et de travail, on aspire aussi à signer quelques petits objets qu'on fabrique, parce qu'à un moment, ça, je crois que c'est important aussi de signer les choses et de les affirmer en tout cas.
Une œuvre d'un refuge qui a pris la route en Espagne, c'était au mois de mai, mi-mai, début mai peut-être très certainement, et qui est comment dire, l'une des œuvres d'un refuge que l'on peut déplacer et exposer.
Bah, c'est la seule des œuvres d'art refuge qui soit mobile, puisqu'il y a 12 œuvres d'art refuge, sur les 12 il y a 2 citernes-lits. Tout simplement parce qu'avec le budget d'une œuvre d'art refuge, on pouvait fabriquer 2 citernes-lits. C'est pas plus. Et on a choisi d'en faire 2 de façon très différente. Une complètement basée sur du réemploi. Et donc, comme font souvent les agriculteurs et les paysans, quand ils récupèrent des tonnes à eau et des citernes à eau, hein, ils font avec des éléments de réemploi. Et une autre entièrement fabriquée. Et là, on a travaillé avec le lycée de la découverte de Casville. Ouais. Voilà, qui s'est impliqué dessus dans le cadre d'un gros projet pédagogique pendant 2 ans, etc. Mais cette citerne, c'est la seule qui soit mobile. Et effectivement, on a été invité à aller la présenter dans un festival international de design et d'architecture à Logroño, dans le nord de l'Espagne. Voilà, au milieu d'une vingtaine d'autres œuvres et créations menées par des architectes et des designers venus du monde entier. Et voilà, il y a eu un très beau succès là-bas. C'était assez plaisant de voir l'œuvre sortie de son contexte, puisque quand elle est sur le parcours fenêtre sur le paysage, donc sur le chemin de Compostelle, elle est dans des zones de pâturage, puisque c'est une citerne, donc elle est dans des zones dans lesquelles on trouve des vaches et des pâturages. Là-bas, elle était sur une place telle qu'elle serait dans une salle d'exposition, finalement exposée en tant qu'objet plastique. C'était plutôt assez amusant de la voir dans ce cadre-là, et des gens ont dormi dedans toutes les nuits, voilà, dans pleine ville. Voilà.
Fenêtre sur le paysage, un projet qui s'étend, qui va bientôt toucher et atteindre Genève. Peut-être un mot pour situer tout le monde, ceux qui étaient absents ces dernières années, qui n'ont pas vu éclore le projet.
Ben en fait, Fenêtre sur le paysage, c'est un projet qui a été imaginé au milieu des années 2010 et qui a commencé à s'ancrer véritablement à partir de 2016 sur le chemin de Compostelle, le GR65. Le GR65, c'est celui qui part de Genève et qui va jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Ouais. Voilà, et qui donc passe par Figeac. Pourquoi ce chemin? C'est parce qu'il passe devant chez nous, en fait, sur le territoire où on travaille, qui est cette communauté de communes du Grand Figeac, et qu'il traverse 10 communes sur ce territoire-là, et qu'on s'est dit qu'on avait envie de travailler plutôt la question du paysage, de la relation au patrimoine, de la relation à l'histoire, à l'environnement, la question de la nature, etc. Et donc, on a commencé à travailler sur un programme d'œuvres d'art refuge, c'est-à-dire de commander des œuvres dans lesquelles on peut dormir. Donc, des œuvres qui sont réalisées par des architectes, des plasticiens, des designers, et qui se trouve comme ça le long du chemin. Il y en a plusieurs tout à fait proches d'ici, à Limogne avec Pecten Maximus, à Gréalou avec Super Cairou, la Citerne-lit à Felzin, et puis etc., etc. Comme ça, on en trouve à la fin de l'année ou début 2025 peut-être, il y en aura 12 en tout. D'autres commencent à arriver et sont aussi en projet. Et puis effectivement, la plus lointaine, la plus au nord pour nous, le chantier démarre du côté de Genève, du coup, avec encore une nouvelle, voilà. Mais en tout cas, on peut marcher et puis aller dormir dans ses œuvres. Et donc ça, c'est une des grosses parts aujourd'hui du travail que mène Derrière l'Hublot et qui lui donne aussi une dimension nationale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Derrière l'Hublot, effectivement, il y a cet ancrage sur le territoire de Cap-de-Nac-Figeac et en même temps, au-delà. Voilà. Mais Derrière l'Hublot a toujours eu envie de voyager, hein, puisque c'est pas nouveau qu'on se trouve avec des projets qui se dispersent comme ça et qui sont itinérants. Et c'est le propre de la structure qui n'a pas de lieu et qui donc itinère en fonction des projets et tout ça. Et là, un chemin de Compostelle qui traverse la France, Et c'était trop beau comme invitation, quoi.
C'est la Via Podensis, hein.
La Via Podensis, ouais. Ouais. Ouais.
Bah, ça fait le lien aussi avec la question que je me posais autour de la question de la nature, du vivant, du respect du vivant, de l'environnement, de l'écologie, sans en faire les gros titres. J'ai l'impression, j'ai la sensation qu'indirectement, la thématique environnementale est abordée et que c'est même une sensibilité qu'entretient l'association, la sensibilité organique et l'activité humaine, tout ça est mélangé. Il y a plus d'un titre dans le projet de l'association. Il y a fenêtre sur le paysage parce que c'est en pleine nature, mais à d'autres endroits aussi.
Ouais, peut-être que ce qui regroupe tout ça, c'est la question du soin. Parce que le soin, il est présent dans la relation à notre environnement. Il est présent dans la relation aux personnes. Quand on fait le service d'art à domicile, c'est une question de soin. Quand on fait fenêtre sur le paysage, c'est une question de soin aussi, je pense, relativement au paysage dans lequel on vit. Et l'enjeu pour nous, avec Fenêtre sur le paysage, par exemple, c'est d'apprendre à regarder ce qui est sous nos yeux, des fois, et qu'on ne voit plus. C'est d'amener les gens de ce territoire-là à redécouvrir les territoires dans lesquels ils habitent à travers des créations et des points de vue qui leur sont proposés par des artistes. Et tout ça en essayant de construire des œuvres dont la ressource est géolocalisée, elle est géosourcée, elle est biosourcée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de matériaux qui soient fabriqués ailleurs que dans le territoire où ils vont être implantés derrière. Quand il faut faire une œuvre comme Super Cairo, on ne va pas chercher la pierre en Lozère ou en Italie Bien ou sûr. Ailleurs dans le monde. Mmh. Je veux dire, aujourd'hui, si on veut acheter du pavage, c'est pas mon cas, hein, mais si on veut acheter du pavage pour une piscine, on trouve facilement du pavage qui vient d'Italie, d'Espagne, d'ailleurs dans le monde. Aujourd'hui, les pierres tombales, ça, on y est à peu près tous confrontés un jour dans sa famille, les pierres tombales, le granit, il vient d'Afrique du Sud, il vient d'Inde, alors qu'on a des carrières de granit et on a d'autres carrières, peut-être d'autres pierres ici. Et donc, pourquoi je raconte ça? C'est parce qu'en fait, aujourd'hui, on peut fabriquer des œuvres avec une ressource qui est là. Les artistes le savent. Mais encore faut-il qu'on produise ces œuvres-là. Et pour nous, c'est une façon de s'intéresser, sans nécessairement le dire comme avec des drapeaux et un porte-étendard. C'est pas notre nature à cet endroit-là. Mais en tout cas, c'est une façon de prendre soin de l'environnement dans lequel nous sommes, quoi. Voilà. Donc c'est un engagement vis-à-vis, effectivement, du changement climatique, des questions environnementales. Voilà.
Et donc, on l'a dit, fenêtre sur le paysage à portée nationale, tout comme le service d'art à domicile qui va très certainement se développer dans d'autres départements. Fenêtre sur le paysage, vous organisez une exposition qui se tiendra à la Galerie Sainte-Catherine du 7 juin au 28 septembre. Et vous allez animer une conférence récit, Fred Sancerre.
En fait, cette exposition, ça fait longtemps qu'on travaille dessus. L'idée pour nous, c'était de rendre visible la diversité des œuvres d'art refuge. Mmh. C'est-à-dire que souvent, les gens en voient une ou deux à proximité de chez eux. La plupart des gens, je dirais, sur la zone de Figeac, Villefranche, ils connaissent très bien Super Cairo. Ils voient à peu près cet abri de pierre. S'ils sont un peu adeptes de la randonnée ou de la nature, ils voient à peu près ce qui s'est fabriqué en coquillage du côté de Limogne, parce qu'il y a eu un gros retentissement dans la presse aussi. Par contre, ils voient plus difficilement ce qui se fait en Lozère, ce qui s'est fait dans le Nord Aveyron à Golignac, oui. Ce qui s'est fait dans le Gers. Et l'idée pour nous, c'était de donner à voir toute cette collection. Mmh. Puisque c'est chaque fois le même processus de travail. Donc l'exposition, elle va servir à ça. Un livre va accompagner l'exposition qui est en train d'être finalisée. Et là, moi, je vais faire une conférence, mais en fait, je ne serai pas le seul, puisque pendant la durée, on a 5 conférences et rendez-vous. Certaines qui sont directement sur le lieu des œuvres, comme avec Vivre Seul et Elias Guénoun, qui viendra raconter tout le projet de Vivre Seul à Livignac-le-Haut, son œuvre d'art refuge. Moi, ce que je vais faire, c'est plutôt raconter l'ensemble du projet et raconter quelques-unes, finalement, des anecdotes de ce projet-là, parce qu'il est émaillé de plein de rencontres fabuleuses, que ce soit avec des élus dans toutes ces petites communes, petits villages, avec les artisans qui ont fabriqué les œuvres, avec les riverains et les habitants, et avec les artistes. Donc, pour moi, c'est de raconter ça, ce que je fais à longueur de journée, finalement, puisque chaque fois que je me déplace pour Fenêtre sur le paysage, je raconte à peu près la même histoire. Et là, il s'agit de la raconter encore une fois. Ouais.
Aux archives départementales à 18h30, le mardi 18 juin, on aura l'occasion de rappeler ce rendez-vous. Fenêtre sur le paysage, une exposition, des œuvres d'art refuge, un parcours. Et j'ai entendu parler d'un film, Fred Sancerre. Il y aurait quelque chose qui serait... Il y aurait des images autour des
avec, différentes... Oui, on travaille avec Amic Bedel.
Ah voilà, Amic.
Ouais. Voilà, que vous connaissez bien et qui... travaille avec nous sur un documentaire sur Fenêtres sur le paysage. Et on a invité Amic à travailler dessus parce qu'il a du talent et parce que la façon dont il regarde le monde et les gens et la façon dont il leur donne la parole nous touche. Et voilà, donc on l'a invité. Et ce film-là, il s'agit à la fois de voir les œuvres, mais surtout de voir ceux qui les fabriquent, ceux qui sont à l'œuvre derrière. Mmh. Et donc de leur donner la parole, de les voir agir. Et donc c'est ça, il va montrer finalement presque les coulisses de ce travail-là. Puis cette exposition, ce film et le livre sont appelés à voyager, donc c'est aussi une façon, sur tous les territoires, de montrer le travail. Ouais.
On n'aura pas le temps de tout dire du programme, mais en même temps, tant mieux, puisque derrière le hublot, de tout temps, nous invite à la curiosité. Soyez curieux, c'est un petit poste que vous avez laissé tout récemment pour nous parler de cette danse déambulation qui nous attend là, ce samedi 18 à 16h30 à Figeac. De quoi est-il question? Ça donne très 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 envie.
Bah, c'est une des plus belles choses moi, que j'ai vues dans la rue ces dernières années. Un spectacle que j'ai vu il y a, je pense, au moins 3 ou 4 ans, peut-être 4, au Festival Lauria, qui avait été accueilli dans le hymne du festival et qui a fait quelques rares incursions en France depuis, puisque c'est une compagnie mexicaine qui tourne dans le monde entier. Et qui là, la chance, c'est qu'on a pu se regrouper à 7-8 lieux et structures en France, à Paris, Marseille, Montpellier, etc., pour accueillir cette compagnie qui s'appelle Foco al Aire avec le spectacle de l'Ultramar. C'est à la fois déambulatoire, musical, et c'est extrêmement touchant. On ne sort jamais indemne de ce spectacle-là. On est toujours très troublés, les gens... et là, j'ai vu, moi, depuis quelques semaines qu'ils sont en France, des commentaires sur les réseaux sociaux dans chacune des villes où ils sont passés. Et on voit combien les gens sont remués par cette présence-là. Et on passe effectivement du rire aux larmes très rapidement. Ça se finit sur quelque chose de très beau, de moment très festif. Voilà, c'est absolument à découvrir et c'est assez inracontable parce qu'en même temps, moi, je n'ai pas vu deux propositions comme celle-ci. Voilà. Et c'est une chance qu'on puisse les voir ici, hein, parce que leurs passages en France sont très rares. Ouais.
C'est le premier spectacle de la première partie de saison de l'association Derrière l'Hublot, samedi 18, là ce samedi à 18h30, Figeac, départ, place Vival, en face de l'office de tourisme. C'est tout public, 45 minutes, et c'est tout gratuit aussi, faut le dire. On va survoler la suite du programme, on aura l'occasion de se revoir très certainement, Fred. Un mot sur peut-être les jeux oniriques. Moi j'aime bien tout ce qui est un peu bancal, foutraque, un peu rigolo et décalé. Ça fait partie aussi de la marque de fabrique. Il y en a toujours un petit peu dans le programme de Derrière le Hublot. La lévitation réelle, on n'a pas toutes les dates aussi, il faut surveiller. La soirée des veilleurs de Cap de Nac avec la sortie de l'ouvrage. Enfin bref, on peut aussi inviter les auditeurs à être curieux, à se procurer le programme ou aller faire un saut sur la page Facebook ou encore sur le site internet de Derrière le Hublot. On commence par quoi? On a dit beaucoup de choses. Les jeux oniriques, allez, les veilleurs de Cap de Nac, la soirée des veilleurs à Cap de Nac, le 4 juin.
Ouais, le 4 juin, c'est 2 ans après le démarrage de cette folle histoire des veilleurs de Cap de Nac, où 730 personnes se sont relayées pendant 365 jours pour veiller 1 heure le matin, 1 heure le soir, donc 1 heure au lever du soleil, 1 heure au coucher du soleil. Voilà, et donc cette grande performance qui a traversé vraiment le territoire de Cap de Nac, Figeac, pendant une année, s'est terminée le 4 juin 2023. Et donc le 4 juin 2024, on édite le livre « Souvenirs » et on réunit, on invite tous les veilleurs, mais bien au-delà. C'est-à-dire que c'est un temps tout public, hein, c'est pas un temps réservé aux veilleurs, absolument pas. Mais à la fois pour célébrer la sortie de ce livre-là, et Joanne Layton, la créatrice des veilleurs de Cap de Nac, sera là, les accompagnateurs, tous les bénévoles qui se sont impliqués dans cette histoire-là. Oriane Journeau sera là parce qu'elle aura inventé un pique-nique avec les bénévoles de l'équipe cuisine de Derrière l'Hublot. Et puis on donne aussi au public la possibilité de découvrir une autre œuvre de Joanne Layton qui s'appelle Songline, du coup, comme on l'avait fait l'an dernier pendant Point de Fuite, où le public avait pu découvrir une autre œuvre qui s'appelait People United, qui avait connu un très grand succès. Voilà, donc c'est une façon de poursuivre et peut-être de fermer la parenthèse des veilleurs. Voilà, ce projet qui nous aura occupé pendant plus de 2 ans, ouais. Voilà, qui était une aventure assez folle.
Magnifique projet pour la première fois, je dirais, en province, en milieu rural, puisque la plupart du temps, le projet existait dans des villes, notamment. Je suis passé totalement à côté. On est passé du spectacle danse de déambulation de samedi aux veilleurs, mais il y a tout de même l'assemblée générale le 31 mai à la fin du mois. Ça se passe à Asprières. Et puis, on va danser là pour cette saison avec Derrière l'Hublot, un bal. Ça va valser les rustines de Lange au programme pour l'après-assemblée générale. Une assemblée à laquelle vous nous invitez largement venir à s'impliquer dans le projet. Le petit coup d'œil dans le rétroviseur, effectivement, pour revenir sur les projets qui portent aujourd'hui l'association. Peut-être cette mutation, cette transition qu'on évoquait en début d'entretien. Et puis, de faire la fête aussi après pour boucler la soirée.
Oui, et puis ça va valser, c'est le nom du spectacle, concert, bal, assez foutraque, proposé par la compagnie Les Rustines de Lange, qui avait joué au Festival en Bastide avec un autre spectacle. Mais en tout cas, cette proposition, c'est aussi de faire une fête, c'est-à-dire c'est d'être en action, en fait, puisque Les Rustines de Lange, c'est pas tant un spectacle qui se regarde, c'est plutôt un spectacle qui va se danser. Et il va falloir se mettre à l'épreuve. Ouais. Après, la saison, elle est faite de danse, hein, puisque en feuilletant tout à l'heure, je m'apercevais qu'effectivement, même dans les pages où on ne parle pas de danse, on trouve des chorégraphes dans les différents projets, que ce soit les Jeux Oniriques, que ce soit le service d'art à domicile. Il y a toujours des danseurs, danseuses, chorégraphes qui sont par-ci, par-là, cachés dans les pages, même quand on ne les cite pas. En tout cas, c'est un gros travail toute la saison autour du corps et du corps dans l'espace. Voilà.
Un autre grand bal nous attend, c'est le grand bal des vacances, programmé début juillet, on aura très certainement l'occasion d'en reparler. Une halte, ça c'est incontournable et obligatoire, à Salle Courbatier avec l'île sans nom, c'est du théâtre paysage. Voilà, on oublie tellement de choses à dire. Voilà, pas de festival, c'est ce que moi je retiens en tout cas à la première lecture.
Mais pas de festival, mais l'occasion de voir plein de choses dans l'espace public, dans peut-être plus de villages que ce qu'on faisait avant, plein d'occasions de danser, de boire des verres, de faire la fête, de manger, d'avoir des repas inventifs. Il y a plein de choses. Il y a 2 livres qui sortent, mais effectivement, il n'y a pas de festival cette année, David. Il va falloir que tu viennes plusieurs fois nous voir.
Oh, mais c'est pas dérangeant. J'ai loupé un spectacle magnifique l'année dernière d'un ébéniste menuisier qui fabriquait une chaise. Je le regrette encore, j'y pense tous les jours, de me dire que j'étais pas disponible ce jour-là, mais voilà, c'est ça aussi derrière le Hublot. C'est des petites pépites partout dans la programmation et dans ce programme. Première partie de saison qu'on peut inviter largement les auditeurs à dénicher. Il est disponible en version numérique sur le site derrierlehublot.fr et on peut suivre l'actualité de l'association, le laboratoire Capdenacois Derrière le Hublot sur la page Facebook. Merci Fred Sancerre, directeur fondateur, l'un des fondateurs de l'association Derrière le Hublot, scène conventionnée d'intérêt national art en territoire. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
CFM Villefranche, le mag.